J'ai la joie de vous saluer dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui nous aime, qui s'est livré pour nous, qui a donné son sang pour nous justifier, pour nous laver de tout péché. Nous poursuivons notre petite série dans l'Apocalypse au chapitre 1 et nous lisons les versets 12 à 16. Apocalypse, chapitre 1, les versets 12 à 16. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or, et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans sa main droite sept étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le titre de notre méditation de ce matin, ou de cette petite série, Jésus se présente. Et j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur le thème suivant, le feu. Le feu dans la vision de Jésus. Jésus, deuxième personne de la Trinité divine, est un être spirituel aux mille et une facettes. Sa personnalité divine est une avec Dieu le Père, mais ses attributs, ses caractéristiques sont infiniment divers. Il est l'homme, Dieu, l'agneau et le lion. Il est à la fois amour et justice, bonté, sainteté. Il est un dans sa condition divine et varié dans ses manifestations, quand bien même il ne change pas, quand bien même il ne change jamais. C'est pourquoi il peut être le grand souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, comme on l'a vu la dernière fois, ou le roi, le Seigneur, et même la victime expiatoire. Il est aussi notre frère, notre père, notre chef, notre ami, notre époux. Il y a à peu près une centaine de noms pour Jésus dans l'Écriture. Oui, en effet, mes chers amis, Jésus est tout pour nous, absolument tout. Pour ce matin, nous allons considérer un aspect de la personne de Jésus qui, il faut le dire, va parfois à l'encontre de ce que l'on peut penser de Jésus. C'est un aspect de justice et de sainteté représenté ici par les éléments flamboyants de la vision de Jésus que Jean a reçue. Ses yeux comme des flammes de feu, ses pieds comme de l'airain embrasé, sa voix comme de grandes eaux, sa parole comme une épée aiguë à deux tranchants, son visage comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et dans sa main droite, sept étoiles, qui sont les sept anges des sept églises. Waouh! Moi, j'aurais voulu voir ça. Alors, bien sûr, Pour quelqu'un qui n'est pas familier des Écritures, cette vision d'une personne qui ressemble à un fils d'homme et qui est toute embrasée par le feu, éblouissante comme le soleil en plein midi, cette vision fait peur. D'ailleurs, Jean lui-même, qui connaissait bien le Seigneur Jésus, tombe à ses pieds comme... Absolument, comme mort. Et si vous lisez dans Daniel 10, qui reçoit à peu de choses près la même vision, lui aussi, devant ce spectacle extraordinaire, inhabituel, spécial, est tombé par terre. Considérons, pour commencer, les différents éléments embrasés. Premier élément, le regard de Jésus. On a peut-être de la peine à concilier le regard de Jésus, doux et tendre, qui s'abaisse sur nous pour nous dire combien il nous aime, avec ce regard de feu, dont les flammes brûlent et transpercent presque tout. Tout. Regard brûlant de zèle et d'amour, auquel rien, absolument rien n'échappe, même les choses les plus petites, les plus cachées. Autrefois, j'avais peur quand j'entendais que les yeux de Jésus, comme des flammes de feu, me transpercent et voient tout. J'aurais aimé me cacher, mais David dit dans un psaume que je peux aller où je veux, même au bout de la terre, je ne suis pas caché aux yeux de Dieu. Même la nuit pour lui est comme le jour. Comprenons, Jésus ne veut pas nous effrayer, mais nous rappeler qu'il est, qui il est, le Seigneur créateur des cieux et de la terre, celui qui sait tout, qui voit tout, et son amour parfait en nous bannit la crainte. Le deuxième élément, le pouvoir de Jésus. Le regard de Jésus. Deuxième élément, le pouvoir de Jésus. Ses mains, les mains et les pieds sont le symbole de la force, de la marche, du pouvoir. Et les pieds embrasés, semblables à de l'airain, incandescents, nous montrent une fois de plus à quel point Jésus est fort, solide. Sûr qu'il est le Tout-Puissant, qui peut tout, à qui rien ni personne, je le souligne, à qui rien ni personne ne peut résister. Il est le souverain absolu. Il fait tout ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, comme il veut, mais ses actes, si puissants et si glorieux soient-ils, sont toujours en conformité avec sa nature divine. En effet, Jésus n'agit pas et ne réagit pas à la manière des hommes. Sa grande puissance, sa force infinie, ses possibilités illimitées, son pouvoir prodigieux, il ne les utilise pas pour écraser les hommes et les réduire en miettes, mais en faveur des hommes, en vue spécialement de leur salut. Et si Jésus, aujourd'hui, exerce ses jugements sur ce monde, nous avons considéré cela dernièrement dans une réunion de prière, si Jésus juge la terre aujourd'hui d'une pareille manière, par l'eau, par le feu, par les éléments de cette terre, par des cataclysmes, par des épidémies, au point où les hommes se mordent la langue de douleur. Si Jésus agit ainsi aujourd'hui, c'est parce que c'est son dernier geste d'amour, son dernier appel d'amour, avant qu'il ne soit trop tard. Par conséquent, Nous savons que toutes choses concourent au bien suprême de ceux qui aiment Dieu, qui sont aimés de Dieu. Car Dieu n'est pas tenté par le mal. Il ne fait rien de mal. Tout ce qu'il fait est bien fait. D'ailleurs, il n'est pas dit « compter les malfaits de Dieu ». Ou bien, est-ce que j'ai un autre chant, un autre cantique, ou bien une autre Bible, un autre psaume 103 ? Comptez les malfaits de Dieu et apportez-lui toutes vos, comment est-ce qu'on dit, toutes vos réclamations. Comptez les bienfaits de Dieu. Mettez-les tous devant vos yeux. Et vous verrez combien le nombre en est grand. Troisième élément, la parole de Jésus. La voix, comme des grandes eaux, nous montre que la voix de Jésus, comme le tonnerre, s'en va par toute la terre, à laquelle d'ailleurs il s'adresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour rappeler aux hommes que le droit de Dieu le plus strict, c'est de parler, et que le devoir des hommes le plus strict, c'est d'écouter et d'obéir. Et l'Écriture avertit maintes et maintes fois, malheur à celui qui ne daigne pas écouter la voix du Fils. Car comment les hommes échapperont-ils s'ils négligent un si grand salut? Car si Jésus parle de la sorte, c'est bien pour appeler les pécheurs à la repentance. Et il dit aujourd'hui, pas hier ni demain, aujourd'hui, ici et maintenant, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis, l'épée aiguë qui sort de sa bouche, qui sort de la bouche de Jésus, est là pour préciser que sa parole est vivante, efficace. Elle tranche, elle sépare, elle purifie, sanctifie, juge entre le charnel et le spirituel. Consume ce qui est péché et fait grandir ce qui est de la foi, ce qui est de l'esprit. Quatrième élément, l'apparence de Jésus. Le regard de Jésus, le pouvoir de Jésus. Et qu'est-ce que j'ai dit ensuite? La parole de Jésus. Et maintenant, quatrièmement, l'apparence de Jésus. Son visage éclatant comme le soleil, son aspect général, tout feu, tout flamme, comme l'astre brillant de l'aurore, comme le soleil de justice, qui apporte la lumière de la vie, la paix, le pardon, l'amour brûlant pour les âmes perdues, bref, tout ce jaillissement de lumière, cette explosion de feu, ce rayonnement de chaleur, ces éléments incandescents, translucides, cette pureté, cette clarté, cette quasi-transparence, cet éclat de gloire, tout cela et plus encore nous dit qui est Jésus. Dans sa nature divine, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'expression même de sa personne, l'empreinte de la personnalité de Dieu, et il est le créateur de toutes choses et l'héritier de Dieu, son Père. Là encore, frères et sœurs, même si Moïse et Israël ont tremblé au pied du Sinaï, devant la présence de Dieu qui se manifestait par sa voix de tonnerre, sa force qui faisait trembler la terre, les éclairs qui jaillissaient, ses yeux enflammés par le feu de sa sainteté, par la fumée qui couvrait la montagne. Là encore, mes chers amis, rien, rien à craindre. C'est la manière de Dieu de dire qui il est par des visions semblables, par des visions lumineuses, brûlantes, flamboyantes. Dans le prophète Ézéchiel, il y a plusieurs visions de Jésus, de Dieu, de sa gloire. Et vous pouvez lire, relire ces visions, ces textes, et vous verrez qu'il y a toujours la lumière, le tonnerre, les éclairs, le feu, le tourbillon de la vie, les quatre roues de char qui tournent, le feu qui va, qui vient, les éclairs, la voix de tonnerre. Tout ça est en mouvement, tout ça est brûlant, tout ça est lumineux, tout ça est clarté, splendeur, magnificence, la gloire de Dieu. Qui oserait s'approcher? Et cinquièmement, l'amour de Jésus. Vous avez pensé que j'allais l'oublier, hein? Mais j'aimerais vous dire quelque chose à ce sujet. Il est plus souvent question dans l'Écriture de la colère de Dieu que de l'amour de Dieu. Bien sûr que Dieu est amour. Je ne l'ai pas oublié, ne vous en faites pas. L'amour de Dieu. Le fait que Jésus tient dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les anges des 7 églises, est une marque évidente de son amour. Car non seulement Jésus est au milieu de son Église, au milieu des 7 chandeliers, mais il tient dans sa main droite toute son Église et la maintient près de son cœur, enveloppée de son amour, afin de conduire cette Église bénie, cette épouse bien-aimée. Ah, quelqu'un va bientôt se marier. De conduire cette épouse bien-aimée vers son époux, dans sa maison éternelle. C'est comme s'il voulait dire tout le feu, toutes ces flammes, le zèle ardent, cette sainteté brûlante, consumante, ce n'est pas pour vous. Vous qui êtes mon épouse, mon corps, car je vous ai déjà sauvé du feu de l'enfer. De ce feu qui brûle et ne s'éteint pas, de ce ver qui ronge et qui ne meurt pas. Vous êtes à l'abri dans ma main. Et nul ne vous ravira de ma main. Pourquoi fallait-il qu'il y ait cette vision flamboyante, et au milieu de cette vision flamboyante, juste cette petite remarque, Jésus tient dans sa main cette étoile. Réfléchissez. Imaginez, comprenez. Résumons. Je n'ai pas encore fini, hein. Vous êtes dit, ah ben dis donc, pour une fois, c'est drôlement vite fini. Non, mais je serai à l'heure, hein. Ne vous en faites pas. Résumons. Il y a dans cette vision 2 choses essentielles. Au premier plan, la sainteté brûlante, éclatante de Jésus, la pureté et la clarté de sa nature, sa justice parfaite, sa colère, sa sévérité, sa gloire, sa puissance infinie. Et au deuxième plan, un peu voilé, comme caché, mais lumineux pour ceux qui ont déjà été jugés, et qui n'ont plus de crainte. Son œuvre éclatante, sa blancheur resplendissante de beauté, l'accomplissement de notre salut en vertu de son amour incomparable et insondable pour nous. Et j'ai parlé de quoi? De Jésus, un peu comme en filigrane derrière le feu, dans sa belle robe de souverain sacrificateur, sa ceinture d'or sur la poitrine, ses cheveux blancs, son visage lumineux, rayonnant, son sourire prévenant, « Mon enfant, je t'aime, je suis mort pour toi. » On chante dans un chant, quel bonheur, quelle grâce d'entendre la voix de Jésus quand j'arriverai au ciel, qui me dira, « Je mourus aussi pour toi. » Si quelqu'un devait être sourd et n'entendre qu'une seule phrase, « Je mourus aussi pour toi, ce serait plus que suffisant. Vous êtes d'accord? Si nous n'avions rien à entendre, mais que nous pouvions entendre seulement cette phrase, mettez votre prénom. Jocelyn, Pierre, je ne m'en rappelle plus votre prénom, frère. Pardon? Marco, Georges, encore un Georges, enfin, etc. Ronald, Giuseppe. Tu n'entends rien, mais tu vas entendre juste une phrase. De la part de Jésus, je mourus aussi pour toi. Waouh! Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça réchauffe le cœur, ça met du baume sur les blessures, ça me motive, ça nous aide à porter, à supporter. Bientôt, bientôt, mon cher époux, Jésus, mon Sauveur, mon Seigneur, va revenir. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Alors là, il y a donc, me semble-t-il, le lion et l'agneau, le Sauveur et le Seigneur, le Maître et le Serviteur, Dieu et l'homme, tout cela et plus encore en une seule et même personne. La personne ineffable de Jésus. Et qui devant cette vision, si spectaculaire, si grandiose, si prodigieuse, manifestant d'un seul coup toute la lumière, toute la gloire du Fils, oui, qui devant cette révélation si éclatante, si éblouissante, ne tomberait pas à terre aux pieds de Jésus, comme mort? D'ailleurs, Jean, comme je l'ai dit, est tombé comme mort. Daniel est tombé à peu près dans les mêmes circonstances. Qui, devant cette vision, ne serait... Et qui, après être tombé comme mort devant cette vision, ne serait pas également, à l'instar de l'apôtre, à l'instar du prophète Daniel, immédiatement relevé par la main de Jésus et consolé et fortifié par sa parole bienveillante et bienfaisante? Et qui ne serait pas étonné, autant qu'émerveillé, devant tant de splendeur, de grandeur, de gloire, de magnificence? Et qui ne dirait pas à Jésus: Jésus, c'est toi? Quand Marie s'est retournée dans le jardin de Gethsémané et qu'elle avait entendu Jésus l'appeler, prononcer son prénom, Marie, elle s'est retournée d'un coup. C'est toi, Rabouni? Je vous le dis humblement, j'ai réfléchi. Si je voyais une telle vision, enfin, j'ai bien d'ici, hein, est-ce que je me retournerais vite, vite, vite? Est-ce que je dirais: Jésus, c'est toi? Sans crainte, sans peur, avec empressement, avec joie, avec bonheur? Jean ne dit-il pas, afin que nous n'ayons pas de honte à son arrivée, à son retour? Quand nous sommes dans la nuit et qu'on voit peut-être quelqu'un arriver, et puis que ce soit votre épouse, votre époux, vos parents, vos enfants, vous êtes dans la nuit, dans la maison, puis qui c'est? Et puis la personne répond: c'est moi. Qu'est-ce que ça vous fait? Ah! Alors nous répondons, Jésus, nous disons à Jésus: Jésus, c'est toi? Et qu'est-ce qu'il répond? Mais Joseph, c'est moi. Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu si peu de foi? Ne me connais-tu donc pas encore? Il y a dans cette vision, comme en filigrane, les trois offices de Jésus: le Sauveur, le Seigneur et le prophète. Et rappelons-nous que Jésus seul avait le droit de revêtir ces trois aspects, ces trois offices en même temps. Il est le prophète, le porte-parole de Dieu, par excellence, celui qui est habilité et qui a le droit, le seul droit de parler du Père, parce qu'il est venu du Père et parce qu'il a été établi par le Père pour dire au monde la réalité de Dieu, la véracité de l'amour de Dieu qui nous aime. Le Sauveur qui est lui-même la victime expiatoire, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, comme on l'a entendu tout à l'heure. Le souverain sacrificateur institué depuis toujours et pour toujours sur son Église pour prendre soin et subvenir aux besoins de ses frères. Et le Seigneur de gloire, souverainement élevé, assis à la droite de Dieu, sur le trône de Dieu, il règne en roi sur son royaume, en maître absolu sur le monde et sur tout l'univers. Et il soutient toutes choses par sa parole. Et aujourd'hui encore, dans les tabernacles éternels, Jésus exerce ses trois offices selon la volonté de Dieu, jusqu'à ce que tous ses ennemis aient été mis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. Alors on dira, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La vie a tout englouti. Poursuivons encore. Au premier plan de cette vision, un élément prédomine. Et cet élément, c'est le feu. Le feu qui enflamme son regard, embrase ses pieds, illumine son visage. Bref, toute sa personne est flamboyante, éblouissante de cette clarté incandescente. Imaginez, qui aveugle nos yeux tellement son rayonnement est vif, est lumineux, est brûlant et son aspect effrayant. Car aucun pécheur ne peut voir la sainteté de Dieu et vivre. Au sujet de ce feu, j'aimerais dire trois choses. La sainteté de Jésus, la sanctification des élus et le jugement des pécheurs incrédules et impénitents. Et pour ce matin, juste encore quelques mots sur la sainteté de Jésus. Il me reste quelques minutes, je crois. Jocelyn, merci. Si je ne m'arrête pas, alors il faut tirer la sonnette, En tout premier lieu, Jésus est saint, comme Dieu est saint. C'est-à-dire que Jésus, tel que Dieu le Père, tel que Dieu le Saint-Esprit, est le tout autre, le seul Dieu unique et vrai, séparé du mal, pur de tout mal, innocent de tout mal, infiniment et éternellement éloigné du mal, n'ayant jamais eu de part quelconque avec le mal, ne serait-ce que dans une infime partie, et qui n'aura jamais quoi que ce soit à voir avec le mal, car il n'y a rien, absolument rien de commun entre Dieu et le mal. Car Dieu ne peut pas voir le mal, ses yeux sont trop purs pour cela. Jésus donc est saint, lumière, pureté, transparence, feu brûlant qui consume instantanément le mal qui voudrait s'approcher. Car il est le mal, il ne supporte pas le mal. Et son feu ardent de lumière et de sainteté le juge et immédiatement le condamne pour toujours. Frères et sœurs, comprenons bien ceci. Tous les autres attributs de Jésus, amour, bonté, lumière, justice, et son cœur plein de compassion, de miséricorde, de pitié, de grâce, et que sais-je encore, tous ces attributs-là de Jésus ne seraient que vanité, que futilité, si la moindre parcelle de mal pouvait atteindre son cœur. C'est pourquoi l'Écriture affirme avec force que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Imaginez l'amour de Jésus entaché par la haine, sa lumière obscurcie par les ténèbres, sa bonté subjuguée par le mal, son cœur envahi par les démons de l'enfer. Comme les Juifs le supposaient, tu as un démon. Et j'en passe. Que serait alors Jésus? Il serait tout sauf Dieu, sauf divin. Il serait un Dieu parmi les dieux, mauvais parmi les mauvais, méchant parmi les méchants. Tandis que maintenant, au-dessus de tout et de tous, habitant une lumière inaccessible, étant esprit et vie invisible, mais accessible à tous, seul Dieu vivant est vrai, incorruptible, immortel, indestructible, Jésus le tout autre, pur et saint, juste, immuable et fidèle, peut, en tant que Dieu éternel, être le prophète de Dieu, le sauveur des élus et le Seigneur des hommes. Il peut. Si nous accordons la moindre portion de mal à Dieu, il n'y a plus de Dieu et nous, on n'existerait pas. S'il n'en était pas ainsi, pardon, je vous dis pardon, les choses ne peuvent pas être autrement. Dieu existe, Jésus est Sauveur et Seigneur, et nous sommes son Église, son épouse. Le ciel et la terre passeront, Jésus fera toutes choses nouvelles, les élus seront avec lui, les impies seront dans leur lieu de tourment. Et le néant, comme disent les hommes, comme disent les incrédules, et le néant n'est qu'un leurre du diable pour faire croire aux hommes qu'après la mort, tout est fini. Mon œil. Jésus, tout feu, tout flamme. Jésus, tout feu, tout flamme. Enveloppé de feu, rayonnant de feu, manifestant le feu divin, la sainteté de Dieu, preuve de sa réalité divine, se présente dans le feu, par le feu, afin de bien montrer aux hommes et aussi à son Église qu'il est réellement et véritablement celui qu'il prétend être, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui vit au siècle des siècles, qui tient tout dans sa main, son Église, le monde, et même les clés de l'enfer et du séjour les clés de la mort et du séjour des morts, le Seigneur ressuscité, vivant, assis à la droite de Dieu, vainqueur du péché et de la mort. On peut dire amen ? Amen. Je vous recommande de regarder dans les Écritures cette question, ce thème du feu. J'ai une fois, écrit, hein, feu dans les références, chercher le mot feu dans les références. Ouh, je peux vous dire, il y en a dans toute la Bible. Le feu, le feu, le feu. C'est dans le feu que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est dans le feu, c'est par le feu, que le premier sacrifice sanglant de bonne odeur à l'Éternel a été consumé dans le désert. C'est le feu qui a brûlé le sacrifice d'Élie. C'est le feu qui a brûlé le repas que Gédéon avait préparé pour l'Éternel, pour l'ange de l'Éternel. C'est par le feu que la colère de Dieu tombe sur Sodome et Gomorre. Et que la terre actuelle est réservée pour le jugement du feu. On pourrait rajouter encore des lignes et des lignes. Mais je termine en disant, et le sacrifice sanglant, de bonne odeur à l'Éternel, d'une agréable odeur à l'Éternel, est consumé par le feu. Ce sacrifice sanglant, par excellence, c'est... C'est qui ? Pardon ? Amen. Jésus, tout feu, tout flamme, a été lui-même jugé par le feu de la colère de Dieu, de la sévérité de Dieu, du jugement de Dieu sur le péché à cause de moi, à cause de toi. Et Jésus, tout feu, tout flamme, n'a point ouvert la bouche. Comme un agneau muet qu'on conduit à la boucherie, il n'a pas réclamé, il n'a pas hésité, il n'a pas résisté, il n'a pas rouspété. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et le feu dont il est lui-même, comment faut dire, le Créateur, l'a brûlé, l'a consumé, tellement la colère de Dieu sur le péché, sur le mal, sur ce mal affreux, épouvantable. Tellement cette colère de Dieu. On a entendu ce texte, et je termine avec ce texte, dans 1 Corinthiens ou dans 2 Corinthiens 5, je crois, 2 Corinthiens 5, 20 et 21. Jésus a été fait péché pour nous. C'est vrai que certaines traductions disent « Jésus a été fait pécheur », considéré comme un pécheur, mais je préfère la traduction plus littérale qui dit « Jésus a été fait péché ». Il a été jugé comme s'il était le mal, comme s'il était le péché lui-même, comme s'il était, excusez-moi, pardonne-moi Seigneur, comme s'il était lui-même le mal qui est contre Dieu. Vous vous rendez compte? Le Fils de Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le prophète des prophètes, l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde, qui se fait juger comme s'il était lui-même le péché, par Dieu son Père qui l'aimait énormément, à cause de moi, à cause de toi, parce qu'il nous aimait si peu. Parce qu'on l'a entendu aussi dans l'introduction. Car Dieu a tant... Est-ce qu'on veut le dire ensemble pour terminer? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.